Le journal vous est présenté par Mathieu Laurent. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Nous ferons le point dans un instant sur la série d'attentats de ce matin en Sri Lanka. Plus de 200 morts, des centaines de blessés, 3 églises et 4 hôtels de luxe visés, 8 premières arrestations annoncées il y a une demi-heure par le Premier ministre Ranil Wickremesinghe. Aucune revendication à l'heure qu'il est. Également au sommaire de cette édition, un camp militaire malien attaqué dans le centre du pays, 12 morts, correspondance de Marie Matigo. Et puis le transfert du pouvoir au Soudan sur la bonne voie, transfert des militaires à une instance civile. Explication de Nabila Hamel. Mais avant de vous livrer les informations dont nous disposons, un témoignage. Cette vague d'attentats au Sri Lanka est d'une telle violence qu'elle replonge l'île dans les heures sombres de la guerre civile. 1983, 2009, guerre entre le gouvernement à majorité sinhalaise bouddhiste et les Tigres de libération de l'imam Tamoul. Témoignage de Ginano Fernando, recueilli à Colombo par nos confrères de Radio France Internationale.
I am 42 years old.
J'ai 42 ans et la guerre a fait partie de toute ma vie d'adulte. Et je pensais que c'était terminé, que mes enfants allaient vivre quelque chose de mieux que ça. Je ne voulais pas qu'ils quittent le pays, que mon fils parte du Sri Lanka, parce que nous voulions créer une vie meilleure que ce qu'elle était dans le passé. Ce matin, j'ai l'impression d'avoir fait un saut en arrière de 30 ans. C'est horrible et je parle au nom de tous mes concitoyens. Il n'est pas question de savoir à l'heure actuelle qui est derrière ces attaques et quel était le but poursuivi. Mais pourquoi revenons-nous en arrière? On commençait tout juste à sentir un avenir meilleur, à sortir de la guerre et à panser nos plaies pour aller de l'avant. On ne veut pas de ça. On ne veut pas que nos enfants soient confrontés à cela. On ne veut pas quitter ce monde en sachant que l'on est revenu en arrière. Le sentiment général aujourd'hui et la question que tout le monde se pose, c'est qui veut nous entraîner dans le passé alors que nous, nous voulons aller de l'avant.
Plus de 207 morts, des centaines de blessés et des enquêteurs qui multiplient relevés et dépositions indispensables pour comprendre le mode opératoire des assaillants. Bonsoir Antoine Geoffin.
Bonsoir.
Antoine, que sait-on ce soir de leur mode opératoire?
Une partie des attaques était quasi simultanée. 6 des 8 explosions sont survenues ce matin vers 8h30 heure locale. Elles ont visé des hôtels de luxe voisins sur le front de mer de Colombo, la capitale à l'ouest de l'île. En parallèle, des déflagrations ont frappé 3 églises catholiques lors de la messe de Pâques. Saint-Antoine à Colombo, l'église Saint-Sébastien 30 km au nord et une paroisse de Batikaloa sur la côte est. 2 dernières explosions en fin de matinée, l'une dans un hôtel de Deiwala au sud de Colombo, la dernière dans une maison de la banlieue nord de la capitale. Un kamikaze s'est fait exploser lors d'une opération de police, tuant 3 policiers. Le Daily Mirror, le principal quotidien anglophone de Colombo, avance que les 6 explosions de ce matin sont l'œuvre de kamikazes qui ont déclenché leurs bombes, certains dans la file d'attente des hôtels. Toujours selon ce journal, 2 d'entre eux avaient réservé une chambre au Shangri-La, l'un des établissements visés.
Le choc est tel que les autorités s'empressent de prévenir de possibles actes de vengeance tout en appelant à la solidarité nationale. C'est ce sur quoi l'archevêque de Colombo a tenu à insister Malcolm Ranit.
C'est un jour extrêmement triste pour nous tous. Je voudrais faire part de mon profond chagrin et de ma compassion pour toutes les familles qui ont perdu un proche et pour ceux qui sont blessés. Je demande au gouvernement de mener une enquête forte et impartiale et de trouver les responsables de ces actes afin de les punir sans merci. Car seuls des animaux se comportent ainsi. Je demande au peuple sri-lankais de ne pas agir par eux-mêmes et de maintenir la paix et l'harmonie dans ce pays. Je demande à ceux qui le peuvent de donner du sang pour aider ceux qui en ont besoin. Je demande également aux médecins de nous aider. Ceux d'entre vous qui étaient de repos ce dimanche, venez nous aider. Même si ce n'est pour sauver qu'une vie, ce sera déjà une grande action.
Antoine Geoffin, l'exécutif sri-lankais a aussitôt pris un certain nombre de mesures d'urgence.
Et le gouvernement a mis en place un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre pour éviter que les fausses informations ne circulent. Plusieurs réseaux sociaux sont bloqués, Facebook, WhatsApp, Instagram. Sécurité renforcée à l'aéroport de Colombo. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a pris la parole vers 13h, heure locale. Écoutez.
Je voudrais exprimer mes condoléances aux familles des victimes et des blessés des attentats qui ont eu lieu aujourd'hui dans le pays. Je considère qu'il s'agit d'une crise majeure qui conduira le pays et son économie vers l'instabilité. Je condamne fermement ces attaques qui visaient des sites religieux et des hôtels de luxe. Nous devons tous faire respecter la loi du pays. J'ai déjà demandé au secrétaire à la Défense, au commandant des trois forces ainsi qu'à l'inspecteur général de la police de prendre immédiatement des mesures juridiques à cet égard. Le président et moi-même discutons actuellement avec d'autres ministres de mesures supplémentaires. Nous prendrons des mesures sévères contre tous ceux qui sont responsables de ces attentats. Nous donnerons tous les pouvoirs nécessaires aux forces de défense. Restons calmes pendant cette crise nationale.
Antoine, on va dans un instant avec vous prendre connaissance des très nombreuses réactions internationales, mais en ce dimanche de Pâques, commençons par le Vatican et les mots du pape François. Rome, Mathilde Imberti.
Le pape François avait célébré au Sri Lanka il y a 4 ans une messe devant 1 million de fidèles. Aujourd'hui, c'est de Rome qu'il exprime son attention envers les Sri Lankais dans quelques lignes ajoutées à son texte après les attentats et lues devant 70 000 personnes place Saint-Pierre.
Je désire manifester ma proximité la plus affectueuse à la communauté chrétienne, touchée alors qu'elle se rassemblait pour prier. Je confie au Seigneur ceux qui ont disparu tragiquement. Je prie pour les blessés et tous ceux qui souffrent à cause de cet événement dramatique.
Un œil sur le pape, un autre sur son smartphone. Sarah suit l'évolution de la situation. À Rome, dit cet homme, chauffeur de profession, nous sommes environ 2000 Sri Lankais, tous extrêmement choqués.
C'était nécessaire cette bénédiction. Pour tous, pour les morts, les blessés, tous les Sri Lankais. On a été épargnés dernièrement au Sri Lanka. Ils ont même tué des touristes. C'est terrible. Un jour de Pâques, je suis très triste.
Outre le Sri Lanka, le pape cite du balcon de Saint-Pierre la Libye, la Syrie, le Yémen, les pays africains sous tension face à la multiplication des conflits. Il appelle les pays développés à cesser la diffusion des armes.
Antoine Geoffin, les chefs d'État et de gouvernement ont dit leur émotion, leur indignation après cette série d'attentats qui ont ensanglanté le Sri Lanka.
L'ONU est scandalisée et rappelle le caractère sacré de tous les lieux de culte. Le voisin indien est solidaire du peuple sri lankais. Une telle barbarie n'a pas sa place dans notre région pour le Premier ministre Narendra Modi. Condamnation à Washington du président Donald Trump. Les États-Unis sont prêts à apporter leur aide, dit-il. Enfin, Emmanuel Macron parle d'actes odieux.
Merci à vous, Antoine Geoffin. En Libye, 227 morts et près de 1200 blessés, dont des civils. C'est le dernier bilan livré par les Nations Unies qui ajoute que 30 000 civils ont fui les combats qui opposent dans les faubourgs sud de Tripoli les forces du maréchal Haftar à celles du gouvernement d'Union Nationale dirigé par Faez El-Sarraj. L'armée malienne, une fois de plus ciblée dans le centre du pays, le camp militaire de Guiré, situé à proximité de la frontière mauritanienne, a été attaqué par de présumés djihadistes qui auraient trouvé refuge dans la forêt de Ouagadou, 12 morts dont le chef du camp. C'est une correspondance de Bamako de Marie Matigo.
Le mode opératoire est souvent le même. Une attaque menée pendant le week-end, à l'aube, juste après la prière du matin, avec des assaillants venus à moto. D'abord des tirs de roquettes, puis un assaut frontal avec de violents combats. Les renforts prennent plusieurs heures à arriver et les assaillants ont le temps de brûler le camp et d'emporter des véhicules, des armes, des munitions. C'est le scénario de l'attaque de ce matin contre la base militaire de Guiré. C'est plus ou moins le même scénario qui s'est déroulé il y a un mois à la base de Dioura où une trentaine de soldats ont été tués. La preuve, si l'on en avait encore besoin, que les militaires maliens ne contrôlent pas l'intégralité du territoire, surtout dans le nord et le centre du pays, et cela malgré l'appui des casques bleus et des soldats français de l'opération Barkhane. L'armée malienne est en reconstruction depuis la crise de 2012 grâce à des formations et des financements de la communauté internationale. Mais il existe toujours plusieurs obstacles comme le très vaste territoire malien, le manque de discipline ou encore la corruption. La situation sécuritaire ne cesse de se détériorer. Depuis le début de l'année, selon le gouvernement, plus de 150 soldats, maliens et étrangers, ont été tués au Mali, ainsi que 400 civils. Et il n'est pas certain que le futur Premier ministre, qui devrait être nommé dans les jours qui viennent, change réellement le cap politique.
Marie Matigo à Bamako. 11 jours après la destitution du président soudanais Omar el-Béchir, la population continue de demander un gouvernement civil en lieu et place d'hommes de l'ancien système. Les dirigeants de la contestation doivent dévoiler ce soir, ou en tout cas sous peu, une autorité civile censée remplacer le conseil militaire au pouvoir, lequel conseil, Nabila Hamel, promet de répondre dans la semaine.
Oui, le général Abdel Fattah el-Burhan, l'homme qui dirige actuellement le conseil militaire, s'engage donc à transférer le pouvoir au peuple. L'armée répondra dans la semaine aux demandes des manifestants, annonçait-il cet après-midi dans sa première interview. Mais répondra-t-il à toutes les demandes ou à une partie seulement? Les manifestants, vous le disiez, réclament le transfert du pouvoir à une autorité civile. Et de fait, ils annoncent être en mesure de présenter ce soir cette autorité. L'association des professionnels soudanais est à la manœuvre. Elle précise que ce conseil civil sera chargé de former un gouvernement de transition dont le mandat durera 4 ans et sera suivi d'élections. Des rumeurs faisaient état du report possible de cette annonce, mais pour les leaders de la contestation, le moment est délicat car ils ont d'un côté une autorité militaire qui a entrepris hier des discussions avec eux et de l'autre des manifestants qui maintiennent leur pression par des sit-ins devant le quartier général de l'armée. Certains membres de la société civile soudanaise alertent en tout cas sur des hésitations ou du moins une impréparation, car disent-ils, s'ils ne sont pas prêts avec des noms, cela enverra un signal négatif et ne sera pas dans l'intérêt de la révolution. On est donc dans l'attente et dans ce pays exsangue qu'est le Soudan, les dollars tombent à point. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite viennent de promettre 3 milliards de dollars à Khartoum. À cela s'ajoute le soutien politique de Washington qui envoie une délégation sur place pour enlever le pays de sa liste des États terroristes.
Merci à vous Nabil Amel. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque armée contre le ministère afghan des communications qui a fait 7 morts hier dans le centre de Kaboul. L'Irak a condamné à mort 4 de ses ressortissants récemment rapatriés de Syrie pour appartenance à Daesh. Les premières peines annoncées par la justice qui a récemment hérité de près de 900 dossiers similaires. Les 4 hommes sont condamnés à la mort par pendaison pour avoir, je cite, perpétré des crimes contre des civils innocents pour déstabiliser l'Irak et la Syrie. Fin de citation. L'Irak fait partie de ces pays voisins de l'Iran qui auraient pu être sensiblement déstabilisés par la décision de l'administration américaine de sortir de l'accord sur le nucléaire, accord déchiré il y a tout juste un an par Donald Trump. Christian Chesneau.
C'était une promesse de campagne et une fois installé à la Maison Blanche, Donald Trump est passé à l'action déchirant l'accord sur le nucléaire iranien. Une décision controversée destinée à rompre avec son prédécesseur, estime François Nicolau, ancien ambassadeur de France à Téhéran.
Il y avait sa haine d'Obama. Au fond, finalement, s'il est sorti de l'accord, la raison principale, c'était qu'il voulait détruire, au fond, l'héritage d'Obama. Et dans le domaine international, cet accord nucléaire était ce qui avait été de plus réussi par Obama.
Malgré cela, l'Iran s'est maintenu dans l'accord et l'a respecté, poursuit François Nicolau.
Les Iraniens qui ont hésité à un moment et se sont dit, si les États-Unis n'y sont pas, ça ne vaut pas la peine d'y rester. Finalement, ils ont fait un choix qui n'était pas évident, hein, stratégiquement, psychologiquement, de rester. Au fond, en restant, ils sont du bon côté de la barrière. C'est le pays vertueux. Ils ont le bon rôle.
Obsédé par l'Iran, Trump veut mettre à genoux la République islamique en imposant de nouvelles sanctions dont l'effet est dévastateur pour la population, constate l'avocat d'affaires Ardavan Amir Aslani.
Une tragédie pour le peuple iranien. La monnaie iranienne a perdu plus de 80% de sa valeur. Les Iraniens manquent de tout. Les produits de première nécessité deviennent extraordinairement chers, hors de portée pour la plupart des Iraniens. Il n'y a plus d'investissement étranger en Iran. L'Iran a beaucoup de mal à vendre son pétrole. Donc l'Iran, aujourd'hui, est dans une situation de détresse économique réelle.
Un bras de fer entre Washington et Téhéran qui a des effets déstabilisants dans toute la région.
Une enquête est ouverte à la suite des slogans en France « Suicidez-vous, suicidez-vous » lancés aux forces de l'ordre hier dans la capitale lors de la mobilisation des Gilets jaunes. Enquête ouverte par le parquet de Paris pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, commis en réunion et confié cette enquête à la Sûreté territoriale de Paris. Demain, lundi de Pâques, un temps encore printanier du nord de la Seine au Grand Est et à la Franche-Comté, tandis que la Corse du Sud sera placée en vigilance orange pour vent fort dans quelques heures. Du côté des températures, il fera entre 5 et 11 degrés demain matin, 10 à 14 sur les plages de la Méditerranée. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetto et à la technique, eh bien c'était ce soir Bruno Gagnère-Fontani avec l'occasion, elle est rêvée, n'est-ce pas Bruno, de vous souhaiter une bonne route, une belle route, parce que vous prenez congé tout simplement de la maison de la radio. Bon vent à vous Bruno.